première fois, la formule que j'ai lissée plutôt que proposée de ce que c'est que la logique. Je vais quitter dans le brouhaha de tout un chacun qui se le fait. Pour vous faire remarquer qu'il ne suffisait pas que Freud ait noté comme caractère de l'inconscient qu'il déclique, qu'il fait bon marché du principe de contradiction pour que, comme se l'imagine, quelques psychanalystes de la nouvelle institution analytique, il est plus que probable que, comme pour tout autre discours, sa logique doive se dégager. Je rappelle au passage que le discours, c'est ce dont le moins qu'on puisse dire, et que le sens reste voilé. À vrai dire, ce qu'il constitue est très précisément fait de l'absence de ce sens. Aucun discours qui ne doit recevoir son sens d'un autre. Et s'il est vrai que l'apparition d'une nouvelle structure de discours prend sens, ce n'est pas seulement de le recevoir, c'est aussi bien s'il apparaît que ce discours analytique tel que je vous l'ai situé l'année dernière représente le dernier glissement sur une structure tétradique, quadripode, je l'ai appelé dans un texte hier, par le dernier glissement de ce qui s'articule au nom de la signifiance, il devient sensible que quelque chose d'original se produit de ce cercle se ferme. L'art de produire est une nécessité de discours. C'est autre chose que cette nécessité elle-même. Nécessité logique, réfléchissez ça, il ne saurait y en avoir d'autres, est le fruit de cette production. La nécessité, en anglais, ne commence qu'à l'être parlant. Et aussi bien tout ce qui a pu en apparaître s'en produit est toujours le fait d'un discours. Si c'est bien ce dont il s'agit dans la tragédie, c'est bien pour autant que la tragédie se concrétise comme le fruit une nécessité qui n'est point autre, c'est évident, car il s'y agit que d'être parlant d'une nécessité, dis-je, que logique. Rien, il me semble, n'apparaît ailleurs que chez l'être parlant de ce qui est proprement de l'analogue. Aussi bien pour Poslání, které gáte. Vrflé animaux, que des automates, en quoi surnom, il s'agit d'une illusion. Illusion dont nous montrerons l'incidence au passage à propos de ce que nous allons, de cet art de produire une nécessité de discours, de ce que nous allons essayer de frayer, produire au double sens, de démontrer ce qui était là avant. C'est bien en cela déjà qu'il n'est point sûr que quelque chose se reflète, ne contienne l'amorce de la nécessité dont il s'agit dans le préalable, de l'existence animale. Mais, faute de démonstration, ce qui est à produire doit en effet être tenu pour être avant inexistant. Autre sens, sens de produire, celui sur lequel toute une recherche issue de l'élaboration d'un discours déjà constitué, dit le discours du maître, a déjà avancé sous le terme de réaliser par un travail. C'est bien en quoi consiste ce qui se fait. De pour autant que je suis moi-même le logicien en question, le produit de l'émergence de ce nouveau discours que la production au sens de démonstration peut être devant vous ici annoncé. Ce qui doit être supposé avoir été déjà là par la nécessité de la démonstration produit la supposition de la nécessité de toujours. Aussi justement témoigner de la pas moindre nécessité du travail de l'actualiser. Mais, dans ce moment d'émergence, cette nécessité donne du même coup la preuve qu'elle ne peut être d'abord supposée qu'au titre de l'inexistant. Qu'est ce dont la nécessité? Ce qu'il faut dire, ce n'est pas ce dont, c'est qu'est, et directement, ce dont comportant en soi trop d'être. C'est directement qu'est la nécessité telle que du fait même de la produire, elle ne puisse, avant d'être produite, qu'être supposée inexistant, ce qui veut dire posé comme tel dans le discours. Il y a réponse à cette question, comme à toute question, pour la raison qu'on la pose comme toute question, qu'à avoir déjà la réponse. Vous l'avez donc, même si vous ne le savez pas. Ce qui répond à cette question, quelle est la nécessité, etc. C'est ce qu'à faire, logiquement, même si vous le savez, dans votre bricolage de tous les jours. Ce bricolage qu'un certain nombre disent, peut-être avec moi, en analyse, il y en a quelques-uns, bien sûr, tous, viennent me confier sentiment de ce qu'elle fait. Il me suppose moi-même ce bricolage à le faire, donc. C'est-à-dire tous, même ceux qui me confient, ils répondent déjà. Comment? À le répéter. Tout simplement, ce bricolage de façon inlassable. C'est ce qu'on appelle le symptôme à un certain niveau, à un autre, l'automatisme. Terme peu propre, mais dont l'histoire peut rendre compte. Vous réalisez, en chaque instant, pour autant que l'inconscient existe, la démonstration dont se fonde l'inexistence comme préalable du nécessaire. C'est l'inexistant de ce qui est au principe du simple, à savoir, c'est sa consistance même, au dit symptôme, depuis que le terme d'avoir émergé avec Marx a pris sa valeur, ce qui est au principe du symptôme, à savoir l'inexistence de la vérité qu'il suppose, quoi qu'il en ait la place. Voilà pour le symptôme. En tant qu'il se rattache à la vérité qui n'a plus goût. On peut dire que comme n'importe qui subsiste dans l'art moderne, aucun de vous n'est étranger à ce mode de la réponse. Dans le second cas, le dit automatisme, c'est l'inexistence de la jouissance que l'automatisme dit de répétition au jour de l'insistance, de ce piétinement à la porte qui se désigne comme sortie vers l'existence. Seulement, au-delà, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une existence qui vous attend, c'est la jouissance telle qu'elle opère comme nécessité de discours. Et elle n'opère, vous le voyez, que comme inexistant. Non, voilà. À vous rappeler ces ritournelles, ces rengaines, que je fais bien sûr dans le dessein de vous rassurer, vous donner le sentiment que je ne ferai là qu'apporter comme ça des pitchs sur ce dans quoi, au nom de ceci, il y aurait une certaine substance, la jouissance, la vérité en l'occasion telle qu'elle serait prônée dans Freud. Il n'en reste pas moins qu'à vous en tenir là. Ce n'est pas à l'os de la structure que vous pouvez vous référer. Quelle nécessité ai-je dit qu'il s'instaure d'une supposition d'inexistant? Dans cette question, ce n'est pas ce qui est inexistant qui compte. C'est justement la supposition d'inexistence, laquelle n'est que conséquence de la production de la nécessité. L'existence ne fait question que d'avoir déjà réponse double, certes, de la jouissance et de la vérité. Mais elle inexiste déjà. Ce n'est pas par la jouissance ni par la vérité que l'inexistence prend statut, qu'elle peut inexister, c'est-à-dire venir au symbole qui la désire, comme inexistant. Non pas au sens de ne pas avoir d'existence, mais de n'être existant que du symbole qui la ferait existant, et qui lui existe. C'est un nom, comme vous le savez, généralement désigné par zéro. Ce qui montre bien que l'inexistence n'est pas ce qu'on pourrait croire, le néant. Car quand pourrait-il sortir hors la croyance en soi? Il n'y en a pas 36 de croyants. Dieu a fait le monde du néant. Pas étonnant que ce soit un homme. C'est la croyance en elle-même. C'est ce rejet de la logique qui s'exprime. Il y a mes élèves qui a un jour trouvé ça tout seul. Qui s'exprime selon la formule qu'il en a donnée, je le remercie. Sûrement pas, mais tout de même. Ça ne peut aucunement nous suffire. L'inexistence n'est pas le néant. C'est, comme je viens de vous le dire, un nom qui fait partie de la série des nombres entiers. Pas de théorie des nombres entiers si vous ne rendez pas compte ce qu'il en est du zéro. C'est ce dont on s'est aperçu. Dans un effort dont ce n'est pas hasard, s'il est précisément contemporain, un peu antérieur, certes, la recherche de Freud, c'est celui qui a inauguré à interroger logiquement ce qu'il en est du statut du nom, un nommé Frege, né 8 ans avant lui et mort quelques 14 ans avant. Ceci est grandement destiné dans notre interrogation. Il en est de la nécessité logique du discours de la vie. C'est très précisément ce que je pointe de ce qui risquait de vous échapper de la référence dont à l'instant juste comme application, autrement dit usage fonctionnel de l'inexistence. Elles ne se produisent que dans l'après-coup dont surgit d'abord la nécessité de savoir d'un discours où elle se manifeste avant que le logicien, je vous l'ai dit, y advienne lui-même comme conséquence seconde, c'est-à-dire du même temps que l'inexistence elle-même. C'est sa fin. Se réduire où elle se manifeste d'avant lui. Pour nécessité, je le répète, la démontrant cette fois de même tant que je l'énonce, cette nécessité, c'est la répétition elle-même, en elle-même, par elle-même, pour elle-même, c'est-à-dire. Ce par quoi la vie se démontre elle-même n'être que nécessité discours. Puisqu'elle ne trouve pas pour résister à la mort, c'est-à-dire à son lot de jouissance, rien d'autre qu'un truc, à savoir le recours à cette même chose que produit une opaque programmation. Et bien autre chose, je l'ai souligné, que la puissance de la vie, l'amour, autre calibre qui est cette programmation radicale qui ne commencent pour nous à se désenténébrer. Qu'est-ce que font les biologistes au niveau de la bactérie et dont celle conséquence, précisément de la reproduction de la vie. Ce que le discours fait à démontrer ce niveau où rien d'une nécessité logique ne se manifeste dans la répétition nous paraît ici. Rejoindre comme un semble ce qui s'effectue au niveau d'un message. Il n'est nullement facile de réduire à ce que de ce terme connaissons et qui est de l'ordre de ce qui s'inue d'une combinatoire courte dont les modulations celle passe de l'acide désoxyribonucléique à ce qui s'en transmettra au niveau des protéines avec la bonne volonté de quelques intermédiaires, notamment d'enzymatiques. Que ce soit là ce qui nous permet de référer ce qu'il en est de la répétition. Ceci ne peut se faire qu'à élaborer précisément ce qu'il en est de la fiction. Par quoi quelque chose paraît soudain se répercuter du fond même de ce qui a fait un jour l'être vivant capable de parler. Il y en a un en effet. Un entre tous, qui n'échappe pas à une jouissance particulièrement insensée et, que je dirais, locale au sens d'accidentel, qui est la forme organique a pris pour lui, jouissance sexuelle. Il en colore de jouissance tous ses besoins élémentaires. Sont chez les autres êtres vivants que colmatage au regard de la jouissance. Si l'animal bouffe régulièrement, il est bien clair, ne doit pas connaître la jouissance de l'animal. Il en colore donc celui qui parle. Et c'est frappant. C'est la découverte de Freud, tous ses besoins. C'est-à-dire ce par quoi se défend trop fort. Il ne faut pas croire du tout, pourtant, pour ça, que la jouissance sexuelle, c'est la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une production locale, accidentelle, organique. Et très exactement liée, centrée sur ce qu'il en est de l'organe mâle. Il est évidemment particulièrement protestant. La détumescence chez le mâle a engendré cet appel de type spécial qui est le langage articulé grâce à quoi s'introduit dans cette dimension la nécessité de parler. C'est de là rejaillit la nécessité logique comme grammaire du discours. Vous voyez si c'est mince. Il a fallu, pour s'en apercevoir, rien de moins que l'émergence du discours analytique. La signification du phallus. Dans mes écrits, quelque part, j'ai pris soin de loger dénonciation que j'avais fait précisément à Munich, quelque part avant 1960,
a une peine. J'ai écrit dessous qui dégueuton des phallus. Ce pas pour le plaisir de vous faire croire que c'est la langue. Encore que ce ne soit absolument pas, puisque j'étais à Munich, que j'ai cru devoir articuler ce dont j'ai donné là le texte retraduit. Il m'avait semblé opportun d'introduire sous le terme de Bedeutung ce qu'en français, degré de culture, nous étions à l'époque parvenus, je ne pouvais décemment traduire que par la signification. Du Bedeutung des Phallus, c'était déjà, mais eux-mêmes, étant donné qu'ils étaient analystes, j'en marque la distance par une petite note qui est au début de ce texte reproduit. Les Allemands avaient, bien entendu, je parle des analystes, on était sortis de la guerre et on ne peut pas dire que l'analyse avait fait pendant beaucoup de progrès. Les Allemands y ont entravé quick. Tout ça leur a semblé, comme je le souligne du dernier terme de cette note, à proprement parler inouï. Curieux d'ailleurs que les choses ont changé au point que ce que je raconte aujourd'hui peut être devenu pour certains nombres d'entre vous déjà à un juste titre monnaie courante. Dibédaltung pourtant était bien référé à l'usage que Frege fait de ce mot pour l'opposer au terme de signe. Qu'elle répond très exactement à ce que j'ai cru devoir vous rappeler au niveau de mon énoncé d'aujourd'hui, à savoir le sens d'une proposition. On pourrait exprimer autrement, et vous verrez que ce n'est pas incompatible, ce qu'il en est de la nécessité de conduire à cet A, de la produire comme nécessité de discours. On pourrait l'exprimer autrement. Que faut-il pour qu'une parole dénote quelque chose? Quel est le sens? Nous échanges commencent. Quel est le sens que Frege donne à Bedeutung? La dénotation. Il vous apparaîtra clair, si vous voulez bien ouvrir ce livre qui s'appelle « Les fondements de l'arithmétique » d'une certaine Claude Hébert, qui autrefois, si mon souvenir est bon, fréquente à mon séminaire, a traduit, qu'il laisse pour vous porter de votre main entièrement accessible, il vous apparaîtra clair, comme c'était prévisible, que pour qu'il y ait à coup sûr dénotation, ce ne soit pas mal de s'adresser d'abord timidement au champ de l'arithmétique tel qu'il est défini par les nombres entiers. Il y a un nommé Kronecker. Pas pu s'empêcher, tellement des grands besoins de la croyance, de dire que les nombres entiers, c'est Dieu qui les avait créés. Moyennant quoi, ajoute-t-il, l'homme a à faire tout le reste, et comme c'était un mathématicien, le reste c'était pour lui tout ce qu'il en est. Du reste, du nombre. C'est justement pour autant que rien n'est su qu'il soit de cette espèce. À savoir qu'un effort logique peut au moins tenter de rendre compte des noms entiers que jamais, dans le champ de votre considération, le travail de Frege. Bien. Je voudrais m'arrêter un instant, ne serait-ce que pour vous inciter à le relire. Sur cette énonciation est produite sous l'angle de la signification du phallus, dont vous verrez au point où j'en suis, ce petit mérite de retard, il n'y a rien à reprendre, bien qu'à cette époque, personne vraiment n'y entendit rien. J'ai pu le constater sur place. Qu'est-ce que veut dire la signification du phallus? Ceci mérite qu'on s'y arrête, car après tout, une liaison ainsi déterminative, il faut toujours se demander si c'est un génitif dit object ou subjectif. Tel que j'en illustre la différence par le rapprochement des deux sens, ici le sens marqué par de petites flèches, un désir d'enfant, c'est un enfant qu'on désire. Objectif. Un désir d'enfant. C'est un enfant qui désire. Subjectif. Vous pouvez vous exercer, c'est toujours très utile. La loi du talion que j'écris au-dessous sans y ajouter de commentaire. Il peut avoir deux sens. La loi, quel talion, l'instaure de loi. Ou ce que le talion loi, c'est-à-dire œil pour œil dans le temps. Ça n'est pas la même chose. Je voudrais vous faire remarquer. C'est la signification du phallus. Et ce que je développerai sera fait pour vous le faire découvrir. Au sens que je viens de préciser du mot sens, c'est-à-dire la flèche, c'est neutre. La signification du phallus, ça a ceci d'astucieux, que ce que le phallus dénote, c'est le pouvoir de signification. Ce n'est donc pas, ce phi de x, une fonction du type ordinaire. C'est ce qui fait qu'à condition de se servir pour l'y placer comme argument de quelque chose qui n'a besoin d'avoir d'abord aucun sens, à cette seule condition. L'articulé d'un prosdioris, il existe, ou bien tout, à cette condition. Selon seulement le prosdioris, produit lui-même de la recherche, de la nécessité logique, et rien d'autre, ce qui s'épinglera de ce prosdioris, prendra signification d'homme. Selon le prosdiorisme choisi, c'est-à-dire soit l'île existe, soit l'île n'existe pas, soit le tout, soit le pas tout. Néanmoins, clair que nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce qui s'est produit, d'une nécessité logique à l'affronter au monde entier. Pour la raison qui est celle dont je suis parti, que cette nécessité d'après-coup implique la supposition de ce qui inexiste comme tel. Or, il est remarquable que ce soit à interroger le nombre entier, à en avoir tenté la genèse logique, Fred n'ait été conduit à rien d'autre qu'à fonder le nombre 1 sur le concept de l'inexistant. Il faut dire que pour avoir été conduit là, il faut bien croire que ce qui jusque-là courait le 1 ne lui donnait pas satisfaction, satisfaction de logicien. Les certains, pendant un bout de temps, on s'est contenté de 2. On croyait que ce n'était pas difficile. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Alors les comptes. Insoluble problème. Car s'il ne s'agit que de ce qu'il est convenu de faire, d'un signe pour les compter, existe. Je viens de m'apporter comme ça un petit bouquin pour vous montrer comment un poème arabe là-dessus, un poème qui indique ça en vers, ce qui vous fait avec le pouvoir puis avec l'index, l'air, pour faire passer signe du nom. Et justement, puisqu'il faut faire signe, c'est que le nombre doit avoir une autre espèce d'existence que simplement de désigner, plus à chaque fois avec un aboiement, lequel, par exemple, des personnes ici présentes, pour qu'elles aient valeur de 1, il faut, comme on l'a remarqué depuis toujours, de toutes leurs qualités sans exception, alors qu'est-ce qui reste? Bien sûr, il y a eu quelques philosophes qui ont empiristes pour articuler ça en se servant de des objets comme des petites boules, un chapelet, bien sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ça ne résout pas du tout la question, l'émergence comme telle du peuple. Jusqu'à avait bien vu, le nommé Leibniz, qui a cru de voir partir comme il s'imposait l'identité, à savoir de poser d'abord 2 égale 1 plus 1, 3 égale 2 plus 1, 4 égale 3 plus 1, et de croire avoir résolu le problème en montrant qu'à réduire chacune de ces définitions à la précédente, on pouvait démontrer que 2 et 2 font 4. Mais malheureusement, un petit obstacle. Un petit obstacle dont les logiciens du 19e siècle se sont rapidement aperçus, c'est que sa démonstration n'est valable qu'à condition de négliger la parenthèse tout à fait nécessaire à mettre sur 2 égale 1 plus 1. En serrant le 1 plus 1, et qu'il est nécessaire, ce qu'il néglige, il est nécessaire de poser l'action que A plus B entre parenthèses plus C égale A plus, ouvrez la parenthèse, B plus C, fermez la parenthèse. Il est certain que cette négligence de la part d'un logicien, aussi vraiment logicien qu'était Leibniz, mérite sûrement d'être expliqué que par quelque côté, quelque chose la justifie, quoi qu'il en soit. Qu'elle soit atomise suffit du point de vue du logicien à faire rejeter la genèse lalmitienne, outre qu'elle néglige tout fondement de ce qu'il en est servi. Je ne fais ici que vous indiquer à partir de quelle notion du concept supposé dénoter quelque chose. Il faut les choisir pour que ça colle. Mais après tout, on ne peut pas dire que les concepts, ceux qu'ils choisissent, satellite de Mars, voire de Jupiter, mais pas. Cette portée de dénotation suffisante pour qu'on puisse dire qu'un nombre soit à chacun d'eux associé. Néanmoins, la subsistance du nom ne peut s'assurer qu'à partir de l'équinuméricité des objets que subsume un concept. L'ordre des nombres ne peut dès lors être donné par cette astuce qui consiste à procéder exactement en sens contraire de ce qu'a fait Leibniz, à retirer un de chaque nom, de dire que le prédécesseur, c'est celui du concept. Le nom issu du concept. Le nombre prédécesseur, c'est celui qui, mis à part, servait d'appui le concept d'un certain nombre, c'est le concept qui, mis à part, se trouve identique nom qui est très précisément caractérisé de ne pas être identique au précédent, disons à un près. C'est ainsi que régresse jusqu'à la conception du concept en tant que vide, qu'il ne comporte aucun objet, qu'il est celui non du néant, puisqu'il est concept, mais de l'inexistant, et que c'est juste à considérer ce qu'il croit être le néant, à savoir le concept, dont le nombre serait égal à zéro, qu'il croit pouvoir définir de la formulation d'arguments X différent de X, c'est-à-dire différent de lui-même. Ce qui est une dénotation assurément extrêmement problématique. Car qu'atteignons-nous s'il est vrai que le symbolique soit ce que j'en dis, à savoir tout entier dans la parole, il n'y a pas de métalangage. D'où peut-on désigner dans le langage un objet dont il soit assuré qu'il ne soit pas différent de lui? Néanmoins, c'est sur cette hypothèse que Frege constitue la notion que le concept égal à zéro donne un nombre différent, selon la formule qu'il a donnée d'abord pour celle qui est du nom prédécesseur, donne un nombre différent de ce qu'il en est. Du zéro défini, tenu bel et bien pour le néant, c'est-à-dire de celui auquel convient non pas l'égalité à zéro, mais le nombre zéro. Dès lors, c'est en référence avec ceci que le concept auquel convient le nombre zéro repose. Sur ceci, qu'il s'agit de l'identique à zéro, mais non identique à zéro, que celui qui est tout simplement identique à zéro est tenu pour son successeur et comme tel égalé à 1. La chose se fonde sur ceci, qui est le départ dit de l'équinuméricité. Il est clair que l'équinuméricité est du concept sous lequel aucun objet au titre de l'inexistence est toujours égal à lui-même. Entre 0 et 0, pas de différence. C'est le pas de différence. Donc, par ce biais, règle entend fonder le 1. Et ceci, de toute façon, cette conquête nous reste précieuse pour autant qu'elle nous donne le 1 pour être essentiellement, entendez bien ce que je dis, le signifiant de l'inexistence. Néanmoins, est-il sûr que le 1 puisse s'en fonder? Assurément, la discussion pourrait se poursuivre par les voies durement fréquiennes. Néanmoins, pour votre éclaircissement, j'ai cru devoir reproduire ce qui peut être dit n'avoir pas de rapport avec le nombre entier, à savoir le triangle arithmétique. Le triangle arithmétique s'organise de la façon suivante. Il parle comme donnée de la suite des nombres entiers. Chaque terme à s'inscrire est constitué sans autre commentaire. Il s'agit de ce qui est au-dessous de la barre par l'addition. Vous remarquerez que j'ai parlé encore jamais d'addition, non plus près de. Par l'addition des deux chiffres, celui qui est immédiatement à sa gauche et celui qui est à sa gauche et au-dessus. Vous vérifierez aisément qu'il s'agit ici de quelque chose qui nous donne, par exemple, quand nous avons un nombre entier de points, nous appellerons un, qui nous donne automatiquement ce qu'il en est. Étant donné un nombre de ces points, du nombre de sous-ensembles qui peuvent, dans l'ensemble qui comprend tous ces points, se former d'un nombre quelconque choisi comme étant au-dessous du nombre entier dont il s'agit. C'est ainsi, par exemple, que si vous prenez ici la ligne, qui est celle de la dyade. À rencontrer une dyade, vous obtenez immédiatement, il y aura dans la dyade deux monades. Une dyade, c'est pas difficile à imaginer, c'est un trait de terme, comme on s'en est dit. Que si vous interrogez ce qu'il en est, prenons quelque chose de plus amusant, de la triade, de la tétrade, j'obtenais une tétrade, j'obtenais quelque chose qui est quatre possibilités de triade. Autrement dit, pour vous imaginer quatre faces du carré, vous obtenez ensuite six dyades, c'est-à-dire les six côtés du carré, et vous obtenez quatre sommets monades. Ceci pour donner support à ce qu'il y a à s'exprimer en termes de sous-ensemble. Il est clair que vous voyez qu'à mesure que le nombre entier augmente, le nombre des sous-ensembles qui peuvent se produire en son sein dépasse de beaucoup, très vite, le nombre entier lui-même. Ceci n'est pas ce qui nous intéresse. Mais simplement qu'il est fallu pour que je puisse rendre compte du même procédé de la série des nombres entiers. Je parle de ce qui est très précisément à l'origine de ce qu'a fait Frege. Frege qui en vient a désigné ceci, que le nombre des objets qui est un concept, en tant que concept du nombre, du nombre n nommément, sera de par lui-même ce qui constitue le nombre successeur. Autrement dit, vous comptez à partir de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Sept quoi? Sept de ce quelque chose que j'ai appelé inexistant être le fondement de la répétition. Encore faut-il, pour que soit satisfait au rêve de l'Orient, que ce un qui se répète ici surgisse de quelque part, puisque partout nous avons encadré de zéro ce triangle. Il y a donc ici un point à situer au niveau de la ligne des zéros, un point qui est un et qui articule quoi? Ce qu'il importe de distinguer dans la genèse, un, à savoir la distinction précisément du pas de différent de tous ces parties de ce qui se répète, mais se répète comme inexistant. Frege ne rend donc pas compte de la suite non entière, mais de la possibilité de la répétition. La répétition se pose d'abord comme répétition un, en tant que un de l'inexistence. Est-ce qu'il n'y a pas, je peux ici en avancer une question, quelque chose qui suggère qu'à ce fait qu'il n'y ait pas un seul un, mais l'un qui se répète et l'un qui se pose suite des noms dans ce néant. Nous avons à trouver quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous avons interrogé, posant comme corrélat nécessaire la question de la nécessité fondement de l'inexistant.